Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h avec Yves Cara.
Et c'est un pur bonheur de vous retrouver tous les mercredis donc pour cette émission, Les connus face à l'inconnu, tout est dans le titre. On invite une personnalité connue, on parle de sa vie, de son parcours et de tout ce qui fait l'inconnu de la vie et de sa vie. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de mystère, hein, vous le savez, puisque vous écoutez cette émission et que le nom est marqué en gros sur le site, invité Patrick Adler. Bonjour Patrick.
Bonjour.
C'est un plaisir de te recevoir dans cette émission.
Bah écoutez, c'est un plaisir partagé.
Et on se connaît depuis longtemps.
Et donc, il y a des dossiers.
Donc, Patrick Adler. Alors, bon, bah, vous le connaissez, vous qui nous écoutez, humoriste, comédien, imitateur. Un des premiers et un des rares à imiter de nombreuses voix féminines et avec
après
talent.
Après Claude Vega.
Après Claude Vega,
qui était spécialisé, mais aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui font des voix de femmes. Mais c'est vrai que j'ai été.
T'as été sur le podium à la deuxième place, quoi.
Ouais, c'est
dans
ça.
L'ordre d'apparition.
J'ai été à le premier, enfin, à une certaine époque, c'est-à-dire dans les années 90, à m'engouffrer dans la brèche.
Ouais, exact.
Suite à une émission bien connue à l'époque qui s'appelait Champs-Élysées, du nom de la célèbre avenue, et qui était présentée par Michel Drucker. J'étais à l'époque prof d'allemand.
Vous aimez les chiens ?
Oui,
prof d'allemand.
Et j'ai envoyé une lettre qui l'a fait beaucoup rire, et puis il a dit on va écouter sa cassette, parce qu'à l'époque, moi je parle du siècle dernier.
89,
j'étais ça. Encore prof d'allemand, j'ai arrêté justement, et c'était l'année où j'allais passer le CAPES, parce que j'étais promis un bel avenir. J'allais être peut-être certifié prof d'allemand. Et puis, en fait, j'ai pris une disponibilité, j'ai jamais repris. Et oui, ce sont les hasards de la vie, mais enfin, comme quoi.
Disponibilité sur la vie, carrément.
Sur la vie, oui. Et puis, on a changé de métier. Remarquez, vu l'état des élèves aujourd'hui, je pense que je serais peut-être plus de ce monde. J'aurais peut-être pris 2-3 coups de couteau. Encore que j'avais quelques grandes classes, donc j'avais moins de soucis que mes ex-collègues qui enseignaient dans le premier cycle, où c'est un petit peu violent.
Il y avait plus de respect à l'époque que maintenant, oui. Ça,
ah oui, je me rappelle d'une nana qui m'a dit « Vous êtes payé pour ça ?» J'ai dit « Pardon, vous pouvez répéter, vous êtes payé pour ça ?» J'ai dit « Ok, chef de classe, prenez la classe. » Je l'avais amené chez le proviseur, j'ai demandé 48 heures, je laissais elle ou moi, et il avait accepté. Et il m'a dit « Je ne vous suivrai pas sur tout. » Et puis j'ai eu une réputation pendant 7-8 ans, j'étais un petit nerveux. Et donc du coup j'ai eu une paix royale, mais c'était le bon temps aujourd'hui.
Ah bah maintenant c'est lui ou moi, vous auriez les associations sur le dos, machin, des trucs, ça se fait pas ça.
Bah ouais.
Faut le frapper peut-être, ou se faire frapper pour...
Plutôt se faire frapper aujourd'hui.
Plutôt se faire frapper,
si on ne veut pas avoir d'ennui.
Ouais, parce que vous avez eu avant cette carrière qui a commencé en 89, deux brillantes études, un beau parcours.
Ouais, j'ai une maîtrise.
Il y a des neurones qui fonctionnent bien quand même, hein.
Qui fonctionnait bien, là, ça.
Non, ça fonctionne bien encore.
La donne est un petit peu tarie.
Ouais. Et pourtant, au départ, c'était pas gagné, quoi. On peut pas dire que.
Non.
Le chemin était doré, quoi, dès le départ. On peut pas dire ça comme ça.
Ça a été un petit peu rapide et j'ai été un petit peu surpris parce que rapidement, donc j'avais demandé évidemment, comme je finissais l'année scolaire, je préparais les élèves au bac. La classe m'a appelé, enfin la directrice de production de la classe,
l'émission,
Laure Choubarou, et donc j'ai dit ben non, je prends en septembre, donc ça tout a démarré vraiment à partir de ce 14 février 89, et puis après ça a été la régularité est arrivée à partir de septembre 89. Donc ça fera 25 ans cette année, vous rendez compte, un quart de siècle. Là,
25 ans de...
À écumer les scènes.
Mais bon, quand on est prof, on est un peu sur scène aussi.
Oui, c'est ça.
Hein, c'était un peu ça.
J'ai dit que c'était passé en fait, de la petite estrade à la grande scène. Quoi.
Alors, les connus face à l'inconnu. Pour toi, pour vous, allez, pour toi, on va se tutoyer, on se connaît depuis longtemps. Pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot inconnu ? Alors, je pose pas la question en disant, est-ce que l'inconnu vous fait peur ? Parce que ça m'énerve de mettre une connotation négative avec inconnu. Qu'est-ce que l'inconnu pour toi ? Quels sont les sentiments qui accompagnent ce dont tu vas nous parler ?
L'inconnu, ça peut être la part d'ombre.
De chaque personne ?
La part d'ombre de chaque personne, ça peut être le mystère, ça peut être tout ce qui n'est pas forcément rationnel et qu'on a envie de découvrir, qui nous pose question. Pour moi, c'est tout cela. L'inconnu, c'est le entrer dans l'inconnu. Effectivement, c'est ne pas savoir forcément où l'on se dirige et y aller quand même parfois.
Mais l'inconnu, pour toi, est plus rattaché à l'être humain qu'à son parcours. C'est-à-dire, il y en a qui disent, l'inconnu, moi, c'est après la vie ou avant la vie. Toi, c'est plus la part d'ombre des personnes.
La part d'ombre des personnes et puis le fait effectivement des changements de vie. Moi, je pense que j'étais promis, comment dirais-je, un parcours un petit peu calibré. Mmh. Et en fait, je suis entré dans une profession où effectivement tout m'était inconnu. Les codes n'étaient pas les mêmes. Les gains n'étaient évidemment pas les mêmes.
Ouais, tout à
surtout,
fait.
Surtout au départ. Et puis il y a des familles. Il y a des groupements d'intérêts. Je veux dire que tout ça, je connaissais pas parce que quand on est enseignant, on est un petit peu dans une autre famille.
Bon, on est dans une voie toute tracée.
Une voie toute tracée.
Après, il faut la tracer toi-même.
Ouais.
Et donc celle-là, c'est de l'inconnu.
Là, c'est de l'inconnu et c'est plein d'embûches. Je veux dire parce que c'est. J'ai dit toujours aux jeunes comédiens qui arrivent et qui se sentent pousser des ailes parce qu'ils ont eu quelques succès sur. On ne demande qu'à en rire. Attention, faut durer. Le problème après, c'est de durer.
C'est dur de vieillir dans ces métiers.
Oui, parfois, hein? Parfois c'est dur. Alors on a du respect, c'est-à-dire que maintenant quand je cherche un producteur, ce qui est toujours mon cas, on me dit oui, mais vous avec
Patrick
le nom.
Patrick Adler cherche un producteur, ah oui, faites-le savoir.
Et on me dit mais vous avez un nom, vous avez. Ah. Voilà, mais c'est je dis parfois à des jeunes, c'est peut-être plus simple pour vous parce que vous venez d'arriver dans ce métier, donc vous ne connaissez pas les arcanes de ce métier, et puis on peut des producteurs sont peut-être plus enclins à vous produire.
Oui, il y a un potentiel qui paraît plus ou moins important quand on est jeune.
Ils veulent tous arriver avec la nouvelle Foresti, le nouveau Dubosc, ouais. Ou pour d'autres, dans la musique, le nouveau Stromae, quoi. Donc c'est.
Reproduire, c'est jamais bon. Faut prendre des risques. Bon. Ouais. Les gens sont plus trop prêts à prendre des risques maintenant, j'ai l'impression. Bah, l'inconnu fait plutôt peur. On reproduit et on se rassure sur certaines choses connues déjà.
Ouais.
Hein?
Encore que je dirais que les gens qui sont produits aujourd'hui ont quand même un petit background. Enfin, je veux dire, c'est pas des. On les a découverts. C'est ce que disait Leb à une époque. Ça me faisait beaucoup rire. Il disait j'ai mis 10 ans pour être connu du jour au lendemain.
Ouais, j'aime bien ça.
Ouais, c'est vraiment ça parce qu'on ignore tout à fait que. Moi, je pense par exemple à un type que je connais bien qui s'appelle Arnaud de sa mère qui galérait depuis une bonne douzaine d'années et il a fallu cette émission-là pour qu'il soit sur orbite.
Il y a François Cluzet aussi qui a dit, je crois, c'était au Molière où il a dit enfin formidable. 50 ans et c'était formidable ce qu'il a fait. Je suis un artiste populaire, ce que j'ai voulu être toute ma vie.
Ouais.
Et il était vraiment content. Et il faisait son mea culpa, d'ailleurs, sur ce qu'il avait été ou fait avant. Sûr, ouais. C'était très, très beau, très touchant.
Très beau, très touchant. En plus, c'était très. Surtout, ça a marqué parce que c'était sincère.
Ah ouais.
Un type qui a de la bouteille, un type qui est. Puis qui s'est jamais pris au jeu de la notoriété. Il y a eu effectivement. Bon, il a fait de grands succès et au théâtre et au cinéma, mais évidemment, le plus grand étant le film avec Omar Sy.
Ouais.
Donc
intouchable.
Intouchable. Donc là, effectivement, il s'est
pour tout à coup, on touche les gens.
Voilà,
ça passe.
Il a touché, il est devenu pour le coup intouchable. C'est-à-dire que
financièrement, il est intouchable pour certains producteurs.
Mais bon, c'est bien. À un moment, il y a des rencontres comme ça. Il y a des points de ralliement entre le public et vous qui fait que subitement.
Ça connecte. Alors ça que connecte. Vous étiez connecté, mais on rentre dans une autre dimension. Et alors, moi, ce qui m'intéresse dans notre parcours, dans ton parcours surtout d'artiste, c'est la part de destin, de libre arbitre, de rencontre. Est-ce qu'on provoque tout? Est-ce qu'il y a des choses qu'on contrôle pas? Est-ce que tu as l'impression d'être emmené dans une sorte de courant comme ça? Puis finalement, les choses, tu as l'impression de les provoquer ou pas de les provoquer. Qu'est-ce que tu penses de ce libre arbitre? Il est total? Il est partiel?
Il est partiel. Je pense. Moi, j'ai jamais été dans une. À partir du moment où je suis arrivé justement dans l'inconnu, c'est-à-dire dans ce métier, je n'ai pas eu comme pu l'avoir ou là encore Anne Roumanoff un véritable plan de carrière. D'abord, il y avait une espèce de charte sur ses affiches. Comme sur sa personnalité, c'était rouge. Anne Roumanoff, elle sait. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais une veste rouge et un pantalon noir, et il y avait des gens qui me disaient au bout de 3 ans, mais vous avez abandonné votre veste rouge et tout. Et je m'étais rendu compte après que c'était un petit peu ma marque de fabrique en dehors du fait de
ça avait marqué les esprits.
C'est ça, de pousser un caddie et de faire zézette où j'étais un petit peu relégué à ce rôle un peu emblématique ou Maria Pacoum, Barbara. Mais c'est vrai qu'à la classe, par exemple, pendant 3 ans, j'ai pris la veste rouge et dès lors que je suis passé en radio, j'avais plus besoin de me déguiser ou d'avoir
Un code couleur.
Un code couleur, ouais. Un dress code, comme on dit. Donc, c'est ça. Et donc, il y a des gens, effectivement, qui font en sorte que leur carrière soit, comment dirais-je, identifiable.
Marketée, on va dire.
Marketée. Et moi, je suis vraiment pas un homme de marketing, puisque j'ai fait, là, je viens de sortir de deux saisons où j'étais meneur de revue. J'avais fait une pièce de théâtre avant. Je suis évidemment imitateur. J'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, etc. Mais alors, c'est vrai que d'aucuns étaient tentés de dire que effectivement ça n'avait plus tellement où me situer, mmh. On me voyait plus, mais je leur disais écoutez, regardez mon site, je bouge encore, quoi. Enfin, je travaille encore, mais du coup il y a pas cette. Alors effectivement, peut-être que j'ai fait des mauvais choix à une époque, peut-être que j'aurais dû suivre plus une famille de,
ouais,
de gens.
Tu t'es peut-être plus laissé porter, alors que d'autres vont plus dans une direction marquée. Il faut dire qu'Anne Romanoff a fait des études, non pas que quand on n'a pas
fait
on est dieu, mais ça structure peut-être l'action. Peut-être un petit peu moins spontanément que peut-être un pur artiste.
J'ai toujours pensé que c'était ce que je faisais là était un métier, comme j'ai dit. J'ai été prof jusqu'en 89, c'est-à-dire j'avais à l'époque 32 ans. Je suis imitateur, mais peut-être que je serai seulement comédien après, seulement chroniqueur radio. J'ai fait la première partie d'Hélène Ségara qu'on m'a appelé du jour au lendemain.
C'est énorme.
Ça c'était énorme. Il me dit est-ce que tu veux faire le Palais des Sports? J'ai dit bien sûr. Et puis le Stade de France si tu as ce week-end parce que j'ai rien à faire. Et j'ai dit mais c'est quoi cette blague? Il me dit non parce que Hélène se rappelle de toi. C'est pareil, il y a des destins comme ça. Hélène était à l'époque chanteuse au bal de la classe. Et en fait il y avait tous les 100 émissions. Il y avait comment dirais-je une spéciale la classe et Hélène Ségara chantait. À l'époque, elle se rappelait d'un mec effectivement qui chantait plutôt bien et qui imitait des voix, enfin de chanteurs. Elle avait dit il faudrait un mec qui soit drôle et qui et j'en connais un, mais je sais pas ce qu'il fait actuellement et tout, parce que bon, je vois un petit peu tout, mais je sais pas si dans son one man show il chante encore et tout. Et donc Coulier m'a dit mais tu chantes toi?
Ah ben j'ai dit, ah, oui, un petit raison, peu. Hein, il chante. Ouais.
Et donc du coup j'ai fait le Palais des Sports donc devant 4600 personnes 2 jours. Et après, il me dit, tu veux pas faire la tournée? Je dis, allez, va pour la tournée. On a fait 93 dates. Donc, si tu veux, ça a été
des hasards
comme ça. C'est-à-dire que j'avais prévu d'écrire un truc, un nouveau spectacle que je n'ai pas écrit. Donc, pendant 2 ans, je me suis laissé porter. Entre temps, on m'a appelé pour une pièce que j'ai faite avec Chantal Latsou et Patrice Laffont. C'était en 2004. Et puis, après, la pièce qui devait venir à Paris n'est pas venue. Du coup, je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. 2005, ça a été, c'est pour ça que je peux dire que vraiment, il y a une part du destin et en même temps j'avais envie de prendre du recul. Du coup je suis parti 2 ans à l'étranger.
Ah ouais, oui, en 2005
je suis parti en Tunisie. Oui, je suis parti un petit peu. Je faisais quelques dates en France et tout. J'avais placé un peu de sous et puis j'avais vendu mon appartement. J'avais dit faut faire le vide parce que je suis toujours très inquiet de comme je ne suis pas effectivement formaté, marketé. Je voulais absolument avoir ma pour reprendre l'expression de Florent Pagny, ma liberté de penser. Je m'étais dit, bon, il faut quand même qu'à un moment, je veux dire, ça a été un tourbillon.
Sans de reset, quoi.
Oui, c'est ça. Je me suis dit, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai gagné un peu de sous. J'ai eu une certaine notoriété. Et puis, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas voir? Donc, du coup, je suis parti écrire un bouquin qui n'est toujours pas sorti. Mais ça m'a fait énormément de bien parce que du coup j'ai pris beaucoup de champs, d'abord en découvrant ce que je connaissais un petit peu avant, mais l'Orient, un pays comme la Tunisie où j'ai aujourd'hui acheté une maison, j'ai appris le
c'était le, donc le avant temps. Les avant le printemps ouais,
avant le printemps bien avant et comment dirais-je, j'ai senti qu'il y avait quand même autre, que je pouvais vivre autre chose, je pouvais vivre plus
simplement,
plus simplement, plus sereinement, avec moins d'exigences financières, parce qu'à l'époque évidemment comme c'est une espèce de course aussi à l'argent, puisque comme je travaillais pas mal, je payais beaucoup d'impôts, j'avais acheté un truc que j'étais obligé de vendre après parce que j'avais plus les fonds pour assurer chaque mois ce que ça coûtait. Et après j'ai vu que je me suis toujours rappelé, moi je me rappelle de mes origines, je suis un enfant, comme tu le sais, un enfant de la DAS,
j'ai eu des problèmes
avec familiaux et tout, j'ai déplacé, je me suis fait tout seul, j'ai passé mon bac tout seul, j'ai fait mes études voilà, sans aide extérieure.
À la force du mental et du poignet, complètement.
Et donc du coup j'ai toujours pensé que moi, ce qui est très important pour moi, c'est la liberté. Donc je me suis dit, bon, je fais ça, après je fais autre chose. Et puis si on me propose autre chose demain, pourquoi pas? Entrer en production, pourquoi pas? Enfin, je veux dire que tout m'intéresse. Moi,
c'est un inconnu complet, ça. Ah oui, en fait, tu aimes l'inconnu.
Ah, moi, j'aime l'inconnu. J'aime parce que
franchement, je prof, tu te serais fait chier complet.
Non, non, je vis. Oui, puis j'ai eu très peur de me dire, je vais être, comment dirais-je, je vais être tellement formaté, tellement point de retraite, tellement machin, tellement femme, enfant, chien, maison et tout. Oh, j'avais très très peur de ça. Et quand j'ai fait le grand saut, tout le monde m'a dit, mais tu te rends compte, là, t'allais être. Je dis ouais, mais bon, tentons. Et puis comme ça a bien marché. Et puis après, ça a un petit peu moins bien marché. On m'a dit, tu regrettes pas des fois? J'ai dit, jamais. Ouais. Jamais, c'est que c'était le destin, quelque part. Je veux dire, c'est que.
32 ans, quand même. À 32 ans, t'as.
À 38 ans, 32 ans, j'ai arrêté. Oui, mais j'étais un peu mûr. J'étais un peu mûr parce que les jeunes qui arrivent à 20 ans, qui se mettent à avoir du succès, à part des cas d'exception comme Vanessa Paradis qui a eu du succès à 15 ans.
Ou un Thierry Leluron à 17 ans.
Ouais, mais qui est mort.
Ouais, ouais, ça
c'est. C'est-à-dire qu'il y a des destins comme ça. Je veux dire, ça va très vite et puis ça s'arrête. Mm-hmm. Et moi, je suis plus dans l'envie de durer. Je ne sais pas si je serai encore comédien à 80 ans ou 90 ans comme 91 ans comme Galabru ou 89 ans comme Robert Hirsch et
quand ça
et
reste Michel un plaisir, il n'y a pas de
mais
raison
quand ça
d'arrêter.
Reste un plaisir, moi tout est plaisir ou tout doit être
un
doit être
rien.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout ça. Doit être plaisir. Si dès lors que ça n'est pas plaisir, c'est aller gagner sa croûte, ça me plaît pas. C'est pas mon truc. J'ai toujours dit, je me refuse à faire ce.
Mais dis-moi, t'as eu un. Tu vois, moi je trouve qu'il y a des destins qui sont quand même pas tracés d'avance. Ça c'est évident. On a un Jean-Marie Cavada, par exemple, qui est parti gardien de chèvre à 8 ans au fin fond de la France et qui se retrouve à la tête de Radio France et tout à la force
de son. Et après
qui
fait la politique.
Et après qui fait de la politique parce qu'il a eu la chance de rencontrer un prof un jour qui une minute lui a dit tiens. Je voudrais voir tes parents pour lui parler, les parents, etc. Voilà, il y a tout un des nœuds comme ça qui à un moment donné oriente, mais complètement un destin.
Les rencontres.
Toi, tu pars de loin. Mm-hmm. Franchement, si t'as un toit avec deux personnes qui t'aiment, qui ont juste ce qu'il faut pour t'éduquer, machin, t'as des copains, tu fais des études, c'est normal. Toi, c'était des chemins de traverse. Ouais, est-ce que t'as l'impression que t'avais un destin quand même, ou est-ce que tu t'es fait ton destin?
Alors, j'avais un destin. D'abord, j'étais un garçon, personne n'y croit, mais j'étais un garçon plutôt timide. Mais comme dirait Dolto, tout se fait dans les trois premières années. En fait, moi, je suis né d'un adultère. Ma mère a découvert mon père. Le premier coup a été le bon. Je suis né, mais elle ignorait complètement qu'il était marié. Il était parti à ce moment-là à la guerre d'Algérie, parce que je suis né en 58. Mmh. Et je me suis appelé Patrick Diriec du nom de ma mère, qui elle, étant issue d'une famille de filles-mères, sa mère n'avait pas elle portait le nom de sa mère. Ouais. Sa mère, elle portait le nom de sa mère.
Oui, mais elle n'avait pas de père.
Sa mère elle-même portait le nom de sa mère. Donc il y avait une espèce. Et ma mère ne voulait pas reproduire ce schéma. Donc du coup, elle avait dit quoi, ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais cet homme-là est formidable et tout. Il était parti faire la guerre. Il est revenu en 61. Et là, elle a découvert un homme très différent à cause de la guerre, parce qu'il était devenu violent, alcoolique, machin et tout. Mais bon, pour le coup, j'ai porté le nom de mon père, pour finalement m'en dégager des années après, en disant jamais je ne porterai le nom de Patrick Février, qui est mon véritable patronyme. Ouais. Et pour les gens, je suis Patrick Adler, et sur tous mes papiers, c'est marqué Patrick Février, parce que je n'ai pas le droit de virer mon patronyme, évidemment, mais c'est marqué Patrick Février dit Adler. Donc de toute façon, j'avais déjà en tête... Étant bon, ce que je voulais dire, c'est que les trois premières années, j'ai été élevé par ma mère, ma tante et ma grand-mère, et j'étais un enfant absolument couvé, très drôle, facétieux, espiègle, donc j'étais un bon petit gars. Et à partir du moment où j'ai rencontré ce type-là, qui est intervenu dans ma vie, ça a été une catastrophe, donc là je suis devenu pas mutique, mais en tout cas éteint en classe et brasse-bouillon, j'étais un peu le brasse-bouillon de Vipère au Point.
Et tu te souviens de tout ça?
Ah, je me souviens de tout ça, puisque par exemple, j'étais un enfant très propre, je me suis mis à pisser au lit quand je faisais la sieste.
Tu veux dire que tu as des souvenirs de l'âge de 3 ans?
Ah oui, j'ai vraiment des souvenirs, parce que c'était un véritable choc.
Ouais, ça a été un choc.
T'es couvé par trois femmes, t'es au milieu de trois femmes, ta mère, ta tante, ta grand-mère, et tu arrives tu vois un mec qui dit, faut qu'il se tienne comme ça à table, qu'est-ce que c'est que cette histoire, je veux deux parts de dessert, il n'en aura qu'une et tout. Enfin, tout comme ça, qui a commencé. Puis comme j'étais le fruit d'un adultère, il a dû payer pendant des années. Ouais. Donc du coup, j'avais décidé, de toute façon, mon destin était un petit peu tracé, puisqu'à l'âge de 12 ans, la justice l'a rappelé à l'ordre, il a été privé de ses droits paternels, et je suis parti en foyer. Mmh. Et donc là, j'ai fait ma vie, mes frères étaient nés, mais bon, je les ai pratiquement pas connus.
T'as pris ton destin en main.
J'ai pris mon destin en main, et j'ai dit, et moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais un gosse apparemment un peu intelligent, qui était fou de lecture, et donc j'étais un fort en thème. J'étais insupportablement classe parce que avec
toujours
avec
le temps, toujours une réflexion, toujours une, voilà, une relance.
J'étais pertinent. J'étais pertinent dans les devoirs, mais très impertinent en classe. Donc c'est vrai que je me suis fait virer
On n'accepte pas les trop grandes intelligences ou l'imagination, la discussion.
Moi en tout cas, j'acceptais pas l'autorité. De toute façon, ça c'était clair, j'étais un rebelle.
Un bélier, ça aime pas trop. Un
bélier ascendant lion, en plus.
Ouais, donc ça aime pas trop ça. Hein.
Et du coup, j'ai tout fait tout seul, et donc je pensais que mon destin était tracé. Et un jour, j'ai vu un nul passer chez Drucker, j'ai dit, si lui, pourquoi pas moi? Et c'est à ce moment que je me suis dit, et si la vie... C'est en cela que je dis qu'il y a quand même une part de libre-arbitre, c'est-à-dire qu'il y a forcément un destin, parce que je pensais, je faisais rigoler tout le monde, c'était ma façon à moi de me faire aimer en classe.
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il y avait toujours une fête, et évidemment, au cours de cette fête-là, j'imitais les profs, et donc je faisais rire mes copains, je faisais un carton. Et donc, j'étais même avec un mec qui est assez connu aujourd'hui, qui s'appelle Claude Salmiri, qui est le batteur de Berger, de France Gall, de Johnny, enfin bref, et qui m'a connu à l'époque. On était en cinquième ensemble avec sa femme, de qui il a divorcé depuis, Isabelle, et on s'est connu à cette époque-là. Et quand il m'a revu des années après en télé, il me dit, de toute façon, c'était pour moi, il y avait une évidence qui ne l'était pas pour moi, puisque j'étais quand même dans un rapport un peu sécurisant. Je me disais, bon, passe ton bac et fais tes études d'abord. Ouais. Et après, effectivement, tout le monde m'a dit, mais c'était écrit quelque part. Donc, je pense qu'il y avait une part d'écrit. Et après, effectivement,
est-ce que tu penses que
ma carrière soit en dents de scie, c'est aussi le fait que c'est ces choses que je n'ai pas maîtrisées, parce que c'est un monde très très dangereux, parce qu'il y a des choix à faire. Et pourtant, je suis plutôt un mec de décision, mais en même temps, je suis un mec extrêmement intuitif, donc. Si je sens pas l'affaire, je fais pas. Alors j'ai peut-être loupé des occasions. Je me rappelle par exemple toujours de Louvain, quand on a vu mon dernier spectacle qui s'appelait Même pas changé, où je faisais vraiment une analyse politique, où j'étais très persifleur et tout. Et j'avais retrouvé Louvain. Je lui ai dit, écoute, c'est marrant parce que tu m'avais viré à l'époque. Et c'est en fait, tu avais raison, parce qu'il m'avait dit, fais du sociétal, fais du politique, c'est ce qui intéresse les gens. T'as une très belle voix, etc. Timide des tas de gens, mais si tu fais pas ce qui les concerne, ça marchera pas, en tout cas autant que tu le voudras. Et à l'époque, j'avais pondu un truc, je bossais énormément avec lui, et il m'avait dit, t'en es où ton prochain spectacle? J'ai dit, il faudrait déjà que j'ai le temps de l'écrire. Donc je l'ai écrit en 48 heures, c'est-à-dire que
tu te fais pas
j'ai écrit une
tu
merde.
Écris.
J'étais avec Jean-Marie Chevret, qui a pourtant écrit Le Squat et les Amazones.
Ouais.
Mais on a écrit en 48 heures, effectivement, un truc qui était... je me rappelle, ça devait démarrer par Croisy, Juliette Gréco, Jean-Luc Planard. Il m'a dit, à part les morts, tu fais quoi? Et j'ai éclaté de rire. Il me dit, écoute, tu fais toujours pas de politique, tu parles toujours pas de sujets de société. Écoute, tu te débrouilles. Et donc, quand j'ai repensé à ça et voir ce que j'ai fait par la suite, où effectivement, je suis chroniqueur et je balance... je suis sniper, et je me suis dit, peut-être qu'il avait raison, mais il avait raison avant.
Ouais,
et moi, je ne l'ai pas écouté, parce que je suis quand même une tête de con. Et donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Mais c'est vrai qu'après, c'était beaucoup plus difficile, parce que, par exemple, pour trouver des producteurs, j'en ai trouvé quelques-uns, mais qui étaient toujours des gens dans l'événementiel, qui n'étaient pas dans ce métier-là. Donc, il y a eu des mauvais choix qui ont été des choix extrêmement affectifs.
Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plusieurs futurs possibles?
Ah oui, complètement.
Ouais.
Complètement
en fonction des choix, c'est-à-dire, aujourd'hui, là, tu as plusieurs futurs possibles dans les années qui viennent en fonction des choix que tu vas faire.
Ah oui, tout à fait, ça peut être un choix, parce que j'ai fait un guest dans une série, il y a une fille qui m'a dit, pourquoi faites pas un récurrent? Je dis, appelez-moi. Mais c'est-à-dire que si demain je me retrouve à être récurrent dans une série, je pense que je serai sûrement un bon récurrent. Parce que je crois assez en moi, puis à ma force de frappe.
Mais par contre, tu l'as pas rappelé.
Mais je l'ai pas.
Booster
je l'ai pas rappelé.
Je crois.
Ah oui, ça c'est terrible chez moi. C'est-à-dire qu'il y a une part. Vous savez, enfin, moi, je suis très astrologie parce que j'ai une
15 avril Bélier ascendant.
Ascendant Lion. J'ai ma lune en Poisson et donc Vénus en Poisson.
On va y venir à l'astrologie.
J'y crois énormément et je me suis toujours dit. S'il n'y a pas un appel de l'extérieur, c'est que c'est pas ça. Il faut que le désir. Alors c'est vrai que j'ai tort parce que je devrais aller me faire désirer, mais en fait comme j'ai ce que je disais à des gens là, je viens de finir une saison comme meneur de revue. L'an prochain, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais que j'ai
un spectacle. Alors tu pourrais les rappeler en disant l'année prochaine c'est pour moi, machin, je sais pas un truc
non,
comme ça.
Non, du tout.
Planter des banderilles.
Il y a des gens évidemment qui me rappellent à l'ordre en me disant mais alors qu'est-ce que tu vas faire? Je dis mais attendez, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé, je n'ai jamais été au chômage plus d'un mois. J'ai toujours travaillé.
Pas peur que ça s'arrête.
On peut toujours avoir peur que ça s'arrête.
Si ça s'arrête, tu écris un spectacle et tu repars sur scène.
Oui, d'abord
t'as cette force.
Non, mais ça c'est déjà en gestation. Il est pratiquement écrit. Ça va me prendre encore 15 jours. Je suis en train d'écrire aussi un bouquin. Donc, de toute façon, j'ai toujours. Je suis polymorphe. Donc il y a plusieurs, plusieurs activités qui sont...
C'est impressionnant quand même que cet inconnu ne t'effraie pas plus que ça.
Moi, parce que je fais un petit retour en arrière et je me dis, bon, ça fait quand même 25 ans que ça dure et ça fait 25 ans que je travaille.
Ce qui est énorme dans ce métier-là, c'est fabuleux.
J'ai pas été... Alors évidemment, je gagne le salaire d'un cadre aujourd'hui alors qu'avant je gagnais le salaire d'un ministre. Mais franchement, j'ai toujours bossé et j'ai une qualité de vie autre. Mais qui ne me gêne pas plus que cela.
Parce que le plaisir est toujours là.
Parce que le plaisir est toujours là.
Ouais, ça, c'est important. Le jour où tu perds le plaisir, je suis sûr que tu arrêtes.
Oui,
c'est évident.
J'arrête. Moi, de toute façon, je suis comme ça.
Alors, t'es né donc, hein, 15 avril, on le répète, Bélier ascendant Lion. Donc, si t'es intéressé, tu as dit ?
Ma Lune en poisson, j'ai le Vénus en poisson, c'est-à-dire un plus un égal un, c'est-à-dire passionnel, fusionnel, idéaliste et...
C'est toi.
Et très branché par tout ce qui est un petit peu mystique. Et on parlait justement de gens qui... Tu disais, est-ce qu'il peut y avoir un autre destin après ? Mais oui, complètement. Quand je vois ma copine Davina, qui a changé du tout, mais c'était en gestation, parce qu'elle est fille d'égyptologue, elle était déjà passionnée de yoga, passionnée de l'Inde, etc. Et elle est allée en Inde, elle a fait plein de choses, et puis aujourd'hui, elle est devenue maître yogi. Et elle est formidable, elle a fondé un monastère, elle s'est débarrassée de tous ses biens, donc tout appartient au monastère et tout. Et moi, j'ai fait des stages chez elle, et c'est fabuleux, mais elle a changé complètement de vie, elle est hors...
Hors cadre média,
elle a fait un petit retour là léger parce que pour sa copine Véronique qui elle ne peut pas se passer les médias et parce qu'ils ont monté
c'est la brune
ce qui reste de brun puisqu'elle a les cheveux très très courts comme un bonze.
C'est une bonne invitée ça pour les connaître.
Très très bonne invitée. Et par contre, je ne sais pas si elle accepte parce qu'elle fait très très peu de trucs.
Ouais.
Mais bon,
dès lors que
c'est évident comme ici intelligent, je pense qu'elle sera en phase.
Faut être en phase de
l'émission.
Donc, tu as déjà fait faire ton thème astral, évidemment.
Thème astral, oui.
Alors, qu'est-ce qu'on tu l'as fait faire quand ? Il y a longtemps,
Faire il y a longtemps, mais je.
Et tu l'as pas refait faire depuis ?
Non, j'ai
juste
pas.
Une fois.
Pas, non, mais en revanche, j'ai toujours des copines. Alors, je crois pas du tout au médium, par contre, parce qu'ils sont tous plantés. Alors, je sais pas si je suis réfractaire au médium, mais je leur dis en rigolant que la plupart sont plutôt XL que médium, mais sérieusement, je veux dire,
tout ce qu'on t'a dit, ça c'est pas réalisé.
Plantade totale.
Votre spectacle va marcher, ça va être génial.
Non, c'est pas ça. J'avais des choses, des déménagements, jamais ça s'est fait. Tout bon.
Bref. Donc plutôt astrologie pour toi, en tout cas, qui fonctionne.
Plutôt scientifique. J'ai plus. Alors effectivement, bon, ça m'amuse toujours parce que le Jupiter arrive dans notre cycle et normalement ça tout devrait aller pour le mieux.
Alléluia.
Ça m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est la caractérologie des signes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je sais forcément, je veux dire que je vais avoir une certaine accointance, je veux dire mais pour le reste.
Je suis d'accord, l'astrologie, effectivement, ça détermine des grandes lignes de caractère.
Des grandes lignes de caractère, mais
un signe lunaire, solaire et lunaire, et avec un ascendant, effectivement. Là, il y a peu de marge d'erreur, alors que dans les prédictions de date par rapport à ce qui va arriver, c'est compliqué.
Je pense à un type qui était génial, comme Claude Alexis, qui a fait des révélations surprenantes, que je connais très très bien, mais qui, j'ai été fâché très très longtemps, parce que, un jour, j'ai une copine qui est allée le voir et qui m'a dit, je vais voir Claude Alexis, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Ben, j'écoute, si ses prédictions sont aussi bonnes que celles qu'il m'a faites, mais c'était une plantade, mais totale.
Peut-être que c'est toi qui transmets rien, qui te protège, peut-être.
Alors, est-ce que je suis réfractaire ? C'est possible. Est-ce que je me protège trop ? C'est possible.
Ouais,
je suis petit-fils de voyante aussi. Ma grand-mère,
pardon ?
Ma grand-mère était...
Oui, tu peux répéter ça ?
Oui, je suis petit-fils de voyante Marguerite Guiriec, qui était très connue à Bazoches-les-Morvan, quand elle a été virée de Pont-l'Abbé, parce qu'elle était pour la troisième fois fille-mère, donc elle a dû prendre ses clics et ses claques, ses valises et ses enfants sous le bras. Elle est partie, elle était gouvernante au château de Bazoches-les-Morvan, et elle disait la bonne aventure. Et elle était très, très, très connue. Elle avait d'ailleurs dit à ma mère quand elle s'est mariée, ne te marie pas avec lui, il battra tes enfants, il te battra, et de toute façon, ça, et ton fils sera placé. Et tout, c'était, alors ça, c'était, ma mère me dit toujours, elle me dit, tu te rends compte que quand je me suis mariée, mon père l'a dégagé, évidemment, d'un pompe dans les fesses, et elle me dit, tout ce qu'elle avait dit, c'était réalisé. Donc, mais en même temps, on avait appris avec elle, si tu veux, la psychologie, parce qu'elle était très maligne pour en berlificoter les gens dans ses prédictions. Il y avait sûrement des choses qui se trouvaient avérées, après coup, mais bah, il y avait quand même une grande part de psychologie. Mais donc du coup, j'ai toujours pensé qu'il y avait. Mais on a bah, sûrement.
C'est paradoxal parce que dans la famille, t'as quand même. Est-ce qu'elle a, alors, je vais être précis. Est-ce que cette prédiction, elle l'a faite avant qu'il parte à la guerre?
Non, elle l'avait faite quand ma mère lui annonçait qu'elle allait se marier avec
quand
lui.
Quand il était revenu de la guerre. Donc elle avait vu le profil psychologique, elle a dit attention.
Elle a dit attention, danger. Elle a dit ne te marie pas avec lui, il battra ses enfants. C'est exactement ce qui est arrivé.
Mais elle avait quand même ces dons-là.
Donc je reconnais sûrement une prescience, une médiumnité chez certains individus.
Une sensibilité.
Ou alors une sensibilité et peut-être une télépathie. Oui. Plus que, je pense que les voyants, je m'excuse pour eux, mais fonctionnent plus par télépathie, puisque moi, par exemple, le type que je ne connaissais ni David Adam, que j'ai vu il y a quelques temps, parce que je suis sur Facebook, il y en a beaucoup qui m'abordent en disant « Oh, c'est formidable, vous êtes toute ma jeunesse qui m'en fout un peu chaque fois.
» Salaud.
Et qui m'annonce des trucs, il me dit bah, « Si vous voulez, je vous en fais une, mais je vous la fais gracieusement et tout. » Et à chaque fois, je rigole parce que je me dis « Mais qu'est-ce que... » Et un an après, ils me disent « Alors ?» Bah, je vais leur planter. Et voilà, donc c'est... Mais je sais pas. Ils viennent vers moi, je viens c'est pas spécialement ça, hein. Vers eux. Moi, j'ai jamais pris... Il y a notamment un type qui m'avait dit « Sarkozy, vainqueur. » Et le lendemain, je lui écrivais sur Facebook « Bonne pioche ».
Il avait juste un peu perdu.
Et non, je.
Tu n'as jamais eu, toi, de prémonition, d'intuition?
Non, j'ai des intuitions sans arrêt. Des intuitions.
Donc, si on a des intuitions, c'est qu'il y a un destin qui est un peu écrit et qu'on le lit à l'avance. C'est un peu ça, quand même. Ouais, l'intuition, façon, c'est rien de plus que ça.
Oui. Je pense qu'il y a des choses, mais après cela, je pense que ça se travaille. C'est-à-dire que je ne dis pas demain il va m'arriver ceci, cela. Donc, de toute façon, yallah, c'est pas la peine, c'est écrit. Je reste chez moi et je laisse faire le destin. Ouais. Je pense que le destin, alors, s'accompagne.
D'accord.
C'est-à-dire que je ne peux pas croire simplement...
On peut être influencé par... Tiens, il va t'arriver par... ça et on peut être influencé, on peut le faire quand même.
Oui, mais enfin, je ne sais pas, on m'a dit, là, ça sera plus faire ça. Etc. Quand j'ai commencé l'émission avec Cécile de Minibus, le gars m'a dit, ça va changer de formule, par contre, ça marchera sur... je vois ça durer 4 ans, sur une formule de 2 heures plutôt qu'une heure, etc. Et l'émission s'est arrêtée au bout de 4 mois. Et j'ai dit, nettoie tes boules. Ah, donc voilà, je veux dire que c'est...
Ouais, donc bon, pour toi, t'as...
Je ne crois pas à ces trucs-là. Je me dis, ça fait toujours plaisir, parce que de toute façon, ils m'annoncent toujours que des bonnes nouvelles. Et
ça donne un peu d'espoir. Voilà.
Ça donne un peu d'espoir.
Alors, pour en revenir à l'astrologie, à ton thème, qu'est-ce qu'on t'avait dit quand on a fait le thème?
C'est un thème astral, donc on vous dit simplement la Lune est en machin, Jupiter est en balance.
Il n'y avait pas de prédiction qui accompagnait
ça. Il y avait une prédiction, effectivement, que je serais dans un secteur artistique et que je.
Avant que tu commences?
C'était avant que je commence et que je serais dans, comme vous voyez, plutôt dans un secteur artistique plutôt que dans un secteur de commandement.
Il te connaissait, cet astrologue? Il t'avait vu
non,
sur
pas
scène?
Du tout, pas du j'avais tout. J'avais fait, je crois, un astroflash à ce moment-là. Et puis après, ça a été confirmé par une copine astrologue que j'avais rencontrée qui m'avait dit. Il dit la même chose. Donc l'astroflash, effectivement, c'était trouvé.
Ouais,
de toute façon, c'est simple, c'est scientifique. Je veux dire, c'est votre planète sans ça, etc.
Mais quelqu'un dise quand même que votre destin a de grandes chances de se réaliser dans le domaine artistique, alors que t'es pas dedans, c'est pas quelqu'un qui te connaît.
T'es pas dedans, mais en même temps, il y a
ça transpire de toi.
Tu vois, par exemple, j'ai rencontré hier quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 20 ans. Et qui me dit, tu changes pas la fraîcheur, le machin, etc., ce bagou. Et elle me dit, mais c'était. Elle m'avait connu, donc j'ai même plus de 20 ans, comme prof. Elle me dit, mais c'était évident. C'était. Alors c'est marrant parce que.
Il n'y a que toi qui ne le voyais pas, quoi.
Bon, il n'y a que moi qui ne le voyais pas. Moi, je pensais que. Je subodorais qu'à un moment donné, comme mon pire ennemi, c'est l'ennui. Et que je pensais que, même si c'était intéressant d'enseigner surtout à des terminales, j'avais 4 terminales, 1, 2, 1 première, je me disais qu'à un moment, je pensais que j'aurais vite fait le tour. Et moi, j'ai très, très peur. Enfin,
ton côté bélier.
Oui, ma pomme d'achoppement. Enfin, j'ai pas envie de m'ennuyer, quoi. Donc, ouais. J'avais très, très peur de ça. Et je m'étais dit, qu'à un moment, il y a autre chose qui se dessine. à l'horizon. Et du coup, effectivement, ça a été ça. Et puis comme là, je me dis, peut-être que ça va être... Parce que je n'ai pas envie non plus d'être pathétique et de faire des... Même si c'est marrant de faire rigoler les gens, mais de faire des voix jusqu'à 70 ans. Je dis non, peut-être que je prendrai un autre rôle.
Ou comédien.
Toujours faire ce que...
Ou des choses peut-être plus profondes et sérieuses.
Oui, tout à fait.
Même si dans tes imitations, il y a forcément de l'émotion qui transpire. Et ça va bien au-delà du simple vernis que tu mets dessus. Il faut le savoir quand même. Quand vous allez voir Patrick Adler, vous comprendrez. Est-ce que...
Il y a du sens.
Il y a du sens.
Et pas simplement la gougousserie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais plus estampillé et que, enfin, dans l'esprit des gens qui me voient, me disaient, c'était bien ce que vous faisiez.
Oui, parce qu'il n'y a pas que la musique. Et les paroles.
Oui, c'est ça. Je disais, mais effectivement, je puisse estampiller France Inter. Je ne vais pas dire imitateur intello, parce que je ne pense pas du tout avoir la carrure d'un.
On a le droit de mettre du sens et un peu d'intelligence, quoi. Sans être catalogué d'intello ou de cérébral, heureusement, quand même.
Un cérébral, mais pas un intello.
Est-ce que tu as des amis qui ont eu des parce que une grand-mère plutôt, qui était. Médium, t'as des amis autour de toi qui ont des capacités un petit peu, sinon paranormales, en tout cas qui voient des choses.
J'ai mon frère qui à mon avis est celui des quatre. J'ai un frère qui est décédé il y a 3 ans, mais je pense que c'est celui des quatre qui a le plus de médiumnité, parce que de temps en temps il lâche un truc comme ça.
Ça lui vient comme ça.
Et moi, j'ai toujours demandé de développer, parce que je pense que c'est lui qui a pris de notre grand-mère, sauf qu'il le développe absolument pas parce qu'il est dans la rassurance financière et tout, et donc il sait pas du tout. Et moi, j'ai toujours dit à ma mère, de temps en temps, quand il a des flashs, j'écoute parfois ce qu'il dit, parce qu'il lance un truc
spontanément,
il dit de toute façon, tu vas changer là, parce que là ça non c'est marrant, ça m'est venu comme ça, tu vois. Et il ne développe pas davantage. Donc il a le frein à main sans arrêt, et il est un peu...
Quel dommage quand même, Patrick.
Le problème qu'il a, c'est qu'on se ressemble beaucoup physiquement. Enfin, je suis plus âgé que lui, j'ai 6 ans de plus, mais moi j'ai les cheveux poivre et sel, lui les cheveux... Mais il y a plein de gens qui lui disent, c'est incroyable, vous me faites penser à l'imitateur, vous savez comment est Patrick Adler, etc. Et donc du coup, il a toujours été dans l'ombre de...
Un peu de ta notoriété.
Ouais. Donc ça, à chaque fois, il me dit, tiens, il y a des gens qui, l'autre jour, m'ont dit, alors maintenant, c'est plus, n'êtes pas, c'est marrant, vous ressemblez à, mais avant, c'était, on l'arrêtait, donc ça me faisait rigoler. Mais j'ai dit, écoute, c'est bien, je veux d'avoir, par procuration, un peu de lumière.
Donc
ça, je pense qu'il en a été très, très, très affecté, parce qu'il a été, c'est un garçon qui vit chichement, qui a un
simplement,
petit boulot,
simplement,
très ouais. simplement, qui compte toujours, qui est toujours dans la peur de manquer.
Alors c'est drôle parce que tout, toi t'as pas peur de manquer, t'es dans le confort.
Dans un petit confort.
Et lui, il a la peur de manquer et finalement
il est dans la sécurité totale puisqu'il a un boulot depuis très longtemps.
Mais t'as pas l'impression que dans le ça c'est une question que je pense dans l'ésotérisme ou le paranormal, il y a une dualité entre si on est trop sensible ou très sensible, pas trop, ouais, très sensible, il y a une dualité avec le fait de pouvoir gagner de l'argent. T'as pas l'impression qu'il y a une dualité, que l'un ne peut pas aller avec l'autre?
Il m'a raconté un truc qui lui est arrivé, parce que lui, il a eu 2 accidents absolument mémorables. Il est passé sous un camion quand il était jeune. Ça lui a développé davantage encore sa médiumnité. Puis il a eu encore un très très grave accident quelques années, parce que son visage est complètement refait. Et il m'a dit, maintenant, je donne pour une association en Inde, pour les enfants, etc., pour créer des écoles. Il me dit, je donne une bonne partie de mon argent, parce que si l'argent n'est pas redistribué, il peut arriver des malheurs. Donc ça, j'ai toujours pensé à ça. Comme moi, au regard de comédiens qui viennent me voir, je passe toujours le témoin. Je donne toujours des infos, je donne des téléphones, je dis, tiens, tu devrais aller voir un tel de ma...
Là, tu devrais partages, faire comme ça. Tu
partages. Moi, je suis énormément partageur. Moi, je suis un mec du collectif. J'étais en foyer de 12 ans à 18 ans. J'ai été...
intérêt à partager, colo, là, parce que...
directeur de colo, j'ai fait partie. Et d'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est que les plus belles années de ma carrière sont toujours été
en groupe.
En groupe. C'est-à-dire que la classe, rien à cirer, les bons génies et tout. C'est-à-dire 7-8 ans où j'étais vraiment en groupe, où je faisais partie d'un groupe. Et c'est beaucoup plus compliqué quand je suis... On dirait que cavalier seul, c'est compliqué. Et c'est marrant parce que Baffy, c'est un peu pareil. Baffy, il est le 18 avril.
Il est bélier, un grand fan de Baffy. Ouais. S'il pouvait venir ici. Hein.
Ben oui. Et Baffy, c'est pareil. Quand à chaque fois qu'il fait partie d'une équipe, ça marche. Qu'il a un truc de collectif et tout. Là, à part son bouquin effectivement qui a été un gros carton, il a toujours du mal seul.
Alors à quoi tu attribues ça? C'est l'envie de partage, l'envie de on n'ose pas.
Je sais pas. Il y a des gens qui sont
c'est fait pour ça et d'autres non.
Il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres non. Il y a des gens qui sont des leaders ou des solos et qui arrivent très bien en solo. Je pense à des mecs comme Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, c'est pas la même structure mentale, je pense, qu'un Jamel qui tout de suite a créé le Jamel Comedy Club pour partager. Palmade, qui est lui aussi un bélier, il est du 29 mars. Il est Jamel et Gémeaux, lui. Et Gad est bélier, lui aussi. Et comment dirais-je, Palmade, à un moment de sa vie, il a ressenti le besoin de partager avec d'autres.
C'est la raison pour laquelle
il a fait la bande à Palmade.
La bande à Palmade,
effectivement, il écrit des choses pour eux, il écrit des choses avec eux, ou il les met en scène. En tout cas, il fait un travail collectif. Donc je pense qu'à un moment, il y a des gens qui ont besoin de ce collectif.
De partager.
De toute façon, le bonheur ne vaut que s'il est partagé. Moi, pour moi, c'est ça. Parce que seul...
Patrick, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a Frédéric Lopez qui a fait une belle émission sur le bonheur. Je ne sais pas si tu te souviens. C'était
un fiasco total, parce que peut-être que c'était trop violent, le thème du bonheur, comme si tout à coup, sur un titre, on allait... fédérer.
Je reviens à ce que tu disais, le bonheur doit être collectif. Or là, on montrait des personnes qui étaient heureuses seules. Ouais. On peut pas y être, parce que voilà, je suis pas bien, je suis handicapé, je suis heureux. Mais on n'est pas heureux seul, on est heureux avec les autres. Moi, je dis toujours à mes enfants, mon bonheur dépend du vôtre. Si vous êtes malheureux, je serai malheureux. Donc, ça veut rien dire d'être heureux seul. On peut pas être le bonheur seul. Et je pense que c'est une des raisons du non-intéressement du public à cette émission. Inconsciemment d'ailleurs. Inconsciemment. T'es pas d'accord? D'abord partager. Le bonheur, c'est d'abord du partage.
D'ailleurs, la preuve, c'est quand il fait rendez-vous en terre inconnue, il partage des émotions avec des gens qui sont aux antipodes les uns des autres. Quand il fait la parenthèse inattendue, il fait intervenir trois personnes autour d'un repas, parce que c'est fédérateur, la cuisine, et c'est convivial, et c'est là où ça marche, parce que les gens tout à coup se découvrent, c'est un peu l'art de la maïeutique, c'est l'art d'accoucher les esprits, et c'est vrai qu'il a ce talent-là, Frédéric.
Frédéric Lopez, tout à fait. Tu crois à la vie après la vie?
C'est très contradictoire, parce que d'un côté je suis matérialiste athée, d'un autre côté je suis
matérialiste athée.
Mais d'un autre côté je suis fasciné par le sacré, et je crois pas à la métempsychose évidemment, Davina m'a longuement parlé du sujet, je lui dis... si je me transformerai en grenouille, en chat, en chien, etc. Enfin, ça m'intéresse pas, je m'en fous.
Réincarnation, non.
Mais en revanche, je me dis que il n'y a pas de hasard. De même que mon frère qui est décédé il y a 3 ans maintenant, de temps en temps, je pense à lui et je me dis, putain, mais il est là-haut, là. Je pense qu'il a dû me donner un coup de pouce, ou alors il m'appelle à...
Tu sens qu'il est là, tu sens qu'il y a quelque chose.
Je sens qu'il est là, je sens qu'il est là. Et on est tous assez persuadés de ça, parce que ça a été j'ai perdu un bras ce jour-là. C'était un frère aimé, vraiment.
Quand tu fais appel à lui, tu sens qu'il y a un...
Je ne fais pas appel à lui, mais de temps en temps, quand des choses m'arrivent, je me dis, j'en connais un qui doit peut-être actionner les manettes là-haut en disant, donner un petit coup de pouce là.
Parce inconsciemment, que... comme ça te vient,
oui,
tu
je
dis,
pense.
Tiens, quand même, ça, c'est bizarre.
Il y a jamais... Enfin, c'est... à côté de ça, je pense qu'on a le libre arbitre et qu'on doit pousser le destin. Puis d'un autre côté, je me dis, des fois, il n'y a pas de hasard quand même. Je veux dire que c'est...
Alors, tout est écrit alors?
Non, mais je pense qu'il y a des possibilités qui sont offertes, le cerveau les enregistre, il dit OK pour celle-là, et après faut travailler sur ça, faut pérenniser l'idée. C'est-à-dire la rendre action.
Et t'as pas l'impression qu'il y en a qui, surtout dans nos métiers où tous les possibles sont ouverts finalement, hein, quand on arrive dans ce métier un petit peu, grosso modo, t'as pas l'impression qu'il y en a qui maîtrisent mieux que d'autres?
Ouais, mais parce qu'il y en a qui sont peut-être plus cartésiens, puis il y en a qui sont peut-être plus carriéristes, il y en a qui sont...
Et t'as pas l'impression
que... J'ai très peur que ces gens-là, justement, à un moment, je vais dire un truc très bête, je vais dire, Anne, à force de travailler, à force d'être dans la réussite et tout, elle a eu un petit appel, elle a eu un petit cancer du sein. Ça a été quand même très violent, et je me suis dit, c'est quelque part, je me dis, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que peut-être que faut peut-être lâcher un peu la bride, retourner aux fondamentaux, peut-être qu'elle peut-être pas, qu'elle accordait peut-être pas assez de temps pour à ses enfants et tout ça. Et c'était dans tous les journaux, je veux dire qu'elle avait ce cancer du sein, donc ça m'a beaucoup affecté. Je veux dire,
c'est intéressant ce que tu dis parce que
je me suis dit,
il y a des petites piqûres de rappel du destin comme ça.
Des petites piqûres de rappel. Par exemple, Chantal là-dessous que je connais vraiment très très bien, elle a eu un drame terrible dans sa vie. Elle a perdu un enfant. À 20 ans, et c'était terrible, et sa carrière a vraiment explosé, c'est-à-dire que toute la profession s'est mise à l'aider. Elle a fait Le Père Noël est une ordure en Belgique, après elle a fait une pièce avec Romanoff, elle a fait une autre pièce après, elle a fait les Amazones 1, les Amazones 2, après son spectacle qui est un triomphe, elle a fait une pièce, maintenant elle est en vedette sur une pièce. Donc je veux dire qu'il y a eu je veux dire qu'elle a peut-être tout à coup son garçon perdu, je dirais, devenu un ange gardien pour elle. Donc je crois que c'est signe du destin, de même que quand les gens contractent une maladie, moi je dis toujours que la peau est le reflet de l'âme, je sais pas moi qui l'ai dit, je veux dire, mais oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont psoriasis, qui ont des, ou alors je veux dire qui font un ulcère ou qui font une hernie discale. Et moi mon cousin qui a perdu sa maman a dit un jour en arrivant devant l'ostéopathe, il a dit vraiment j'en ai plein le dos, c'est trop dur et tout, et sa mère était ma tante, donc est décédée, et donc et il a dit vous venez de donner exactement la définition de ce que vous avez, c'est-à-dire une hernie discale, vous en avez plein le dos. Donc je pense que moi, je fais très attention, par exemple, à la santé. Je suis assez. Alors, je suis pas mieux que les autres, mais c'est vrai que.
Bah dans nos métiers, c'est important. Suis, hein, faut être
non,
en forme.
Non, mais je suis assez vertueux. C'est vrai. Alors, curieusement.
Hein curieusement.
C'est ça. On pense que je suis un fêtard et tout. Ouais. Je suis un couche-tôt. On m'appelle commandant couche-tôt. Tous les gens qui me connaissent m'appellent le commandant couche-tôt. Oui, je suis pas du tout un fêtard. C'est-à-dire que je m'endors à minuit et demi, mais j'ai bouquiné avant ou j'ai regardé un truc. Mmh, enfin,
t'as fait retomber la pression.
C'est ça. J'ai fait.
Tu médites.
Oui. Je fais un petit peu de méditation, pas assez à mon goût.
Laquelle
en
méditation?
Revanche, je fais à partir d'une pierre ou d'un crayon ou d'un machin comme ça.
Transcendantal, les yeux ouverts
ou
fermés?
Ouais. Ah, les yeux ouverts et fermés.
D'accord.
Les yeux ouverts et fermés.
D'accord.
Et je fais parallèlement qu'est-ce qu'on disait là,
la méditation avant de te coucher. Tu
je fais. Je vais pas dire un bilan, etc. Mais je veille au grain, je veille à la santé, je veille au sommeil, qui est très, pour moi très important. Je fais encore pas mal de sport. Là, j'en fais beaucoup moins parce que j'ai eu un problème de
hanche,
coxarthrose de hanche comme tous les Bretons. Et donc avant, j'étais un féru de tennis et j'étais sans arrêt sur les cours. Aujourd'hui, je fais plus du yoga. Mais j'ai vraiment besoin de ces trucs-là parce que je me dis. À un moment de la vie, quand on veut aller trop vite, quand on veut trop gagner, on a des petites piqûres de rappel. Et je pense toujours à ça.
Et comment tu expliques que des gens qui vont à la même vitesse, qui font attention, meurent quand même d'un cancer, alors que apparemment tout était bien, ils fumaient pas, ils mangeaient pas, ils mangeaient ce qu'il fallait, machin. Et quand même, il est emporté. Alors que ils faisaient attention, quoi.
Mmh. Ça, je sais pas, j'ai pas de réponse à ça. Malheureusement.
C'est terrible, ça. Mais là, on en revient au destin.
Ce que tu me dis là, c'est exactement ce qui est arrivé à un ami que je connais, qui était photographe, qui est mort il y a 4-5 mois, à 49 ans, qui était sportif, et plutôt même sportif de haut niveau. Il était sans arrêt en entraînement, il fumait pas, il buvait pas, il mariait deux gosses, il est parti, une crise cardiaque. En revanche, il était extrêmement nerveux.
Ah,
extrêmement voilà. Nerveux, c'en était pathétique, parce qu'il avait toujours peur de pas gagner assez, etc. Donc il était sans arrêt sur des reportages photos, faire un truc là, c'est comme ça, il faisait des stages à côté pour pouvoir assurer. Et je lui ai dit, et il me disait, oui, mais je bois pas, je fume pas, tu vois, je fais énormément de sport, enfin, gros, mais je lui ai dit, oui, mais qu'est-ce qu'il énerve? Donc je pense qu'il faut.
Il y a une justice immanente.
Ah, il y a une justice immanente. Moi, j'en parle souvent parce que vraiment, ça a été une révélation, cette femme-là. Je la connais depuis 7-8 ans, Davina. Quand je vois à quel point elle est sereine, elle a une peau. Tout respire la sérénité parce qu'elle a une très, très belle peau pour 65 ans. Elle fait le grand écart. Elle a une énergie qui est vraiment époustouflante. J'ai fait un stage de 4 jours l'an dernier et j'ai dit, mais moi, j'en pouvais plus. Et elle était encore, elle aurait pu continuer pendant des heures. Et on était tous en admiration.
Et elle transmet, surtout.
Et elle transmet. Et en plus, elle est en transmission.
Ouais.
Donc, je pense que le bien fondé de tout ça, c'est quand on est apte à transmettre. Et qu'on est surtout prêt à transmettre. Parce que sinon,
c'est l'ego qui pourrit tout, alors.
Ah, je pense que l'ego pourrit tout.
Alors, ce qui est paradoxal,
Qu'on est dans un métier d'ego, mais à partager. Moi, c'est pas une contradiction, c'est-à-dire qu'on est forcément dans l'ego, puisque dès lors qu'on est sur scène, on est
évidemment.
Au sens littéral du terme intéressant, c'est-à-dire qu'on est digne d'intérêt, c'est-à-dire que tu peux être sur scène, etc., sur une chaise et bouger un doigt tout à coup. quand tu vas bouger ce doigt-là, ce qui est un geste anodin au départ, je dirais, dès lors que c'est sur scène, ça va être intéressant. C'est-à-dire, ah, il a bougé le doigt, qu'est-ce que ça veut dire ?
Il y a une signification, et on le suit. Et on voilà, emmène ça. Le public là-dessus.
Voilà. Et on emmène là-dessus. Donc on est forcément dans l'ego, puisqu'on se présente au public, c'est aimez-moi, regardez-moi, moi, moi, moi. Ouais. Et à côté de ça, on transmet. Donc de façon à ce que ce soit à l'unisson et qu'il y ait une communion qui se fasse avec le public. Donc
c'est pas tout le monde le cas, ce que tu dis. Il y en a qui sont moi, mon ego, et puis ensuite, voilà, on repousse, on refuse les autographes ou autre. Hein.
Tu payes la note.
Ouais. Ouais,
tu payes la note après.
Tu sais, moi, j'y crois pas, ça. Je crois qu'il y a des fiefs et salauds qui vivent heureux toute leur vie. Et ça me désole.
C'est ce que m'avait dit un jour Stéphane Bern à propos de la Queen Mam. Et je lui dis, mais c'est quand même incroyable. Elle avait 100 ans à l'époque. Elle est morte, je crois, 101 ou 102 ans. Et me dit, mais comme quoi la méchanceté conserve, dit, avec le brandy. Dit parce qu'elle était d'une injustice par rapport à Elisabeth, qu'elle enfermait dans des caves. Elle avait été d'une dureté sans nom. Elle était persifleuse jusqu'au bout. Elle avait toujours son petit ricanement et des choses horribles à dire sur les gens. Et me dit, mais c'est, et je lui dis, mais c'est drôle parce que je me vois toujours son petit geste
de la main comme
la portière,
ça là.
Ouais. Et je disais, mais c'est marrant, elle me semblait bonhomme. Et elle me dit, ah, pas du tout. Elle n'était pas loin d'être joviale,
Tu vois, la justice immanente. Il y a des fiefs et salauds qui vivent heureux toute leur vie.
Et moi, je préfère me dire qu'il y a une justice immanente et qu'on paye la note si on ne fait pas du bien.
Même après, on peut la payer après d'ailleurs, une fois qu'on est parti. Hein, c'est pas mal, ça.
C'est ma grande. Alors il y a des gens évidemment qui ont connu. J'ai pas eu la chance, si tant est que ça soit une chance. Il y a des gens qui ont eu, qui ont connu effectivement ce grand trou après un coma, etc.
T'en as connu?
Surpassés, oui, j'en ai connu un qui m'a dit qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Il a dit que sa vie a été bouleversée après ça parce qu'il a vu cette espèce de lumière blanche, de blanc-bleu et tout, et puis une espèce d'appel, une espèce de comme un univers complètement ouaté. Alors je lui dis, mais je lui ai demandé s'il fumait pas des herbes et tout. Il m'a dit non, mais il me dit tant que t'as pas connu le coma. Et moi, il me dit, j'étais à l'article de la mort et j'étais déclaré mort cliniquement pendant 2-3 minutes. Et il m'a dit, mais ça a été.
Ça a été une expérience, et on ne revient pas pareil.
Et il m'a dit, on n'est pas pareil, parce qu'on a connu ça. Lui, il est plutôt serein quant à l'après. Moi, j'en sais rien. D'ailleurs, j'ai aucun sens de l'héritage, parce que je m'en fous, j'ai peu de biens. Et quand on me dit, mais t'y penses un peu, je dis, ah, vous démerderez. Je suis plus là, vous démerderez. Si vous partagez la maison de Tunisie en 8, en 10, c'est plus mon problème, je ne serai plus là et tout. Je me marrerai peut-être de là-haut ou du bas. Si tant est que ça se passe là-haut. C'est pas une interrogation. En même temps, j'assume pleinement mes contradictions. C'est un peu comme Mitterrand, qui était athée, mais qui, lui, était fasciné par les cimetières à la fin de sa vie, fasciné par le sacré, fasciné par la religion. Moi, je suis assez fasciné par les religions. J'aime énormément, il m'arrive de lire le monde des religions. J'aime énormément, je regarde le dimanche matin, par exemple.
Les émissions religieuses sur la 2?
Oui, j'aime bien. Pas la messe, ça me.
Ouais, tout, pas la messe, mais
tout ce qui est dogme,
les débats qu'il y a après.
Les débats, je trouve ça très intéressant, que ce soit bouddhique, protestant, juif ou israélite ou musulman. Mais je suis assez fasciné par ça. Mais je suis assez fasciné par le fait que des hommes aient pu se regrouper sur une croyance.
Pour des histoires pour grands, parce que franchement, marcher sur l'eau, faire des miracles, redonner. C'est des histoires pour grands.
Ça, c'est de la bande dessinée.
Nous sommes d'accord.
Ouais, on est d'accord. Mais pour le reste, qu'il y ait eu besoin de créer un dieu, ou alors en tout cas de se trouver un dieu, ou d'imaginer
un ou plusieurs
dieux,
hein.
Ou un plusieurs. Parce que
c'est très récent quand même, un dieu unique. Ouais, ouais. Dans toutes les religions.
Le polythéisme, effectivement, ça a quoi, 2-3 000 ans, quoi.
C'était à l'origine.
Avant, c'était polythéiste, et maintenant, c'est effectivement du unique. Mais,
est-ce qu'il y a déjà une prière que tu as faite ou une méditation qui s'est réalisée? Tu dis, c'est parce que je l'ai voulu et que je l'ai.
Non.
Non, non, jamais.
T'as pas
l'impression qu'il y a quelque chose que t'as déclenché?
Non, je pense que c'est plus ma bienveillance qui a déclenché ça.
Bon d'entendre ce mot bienveillance. Tu sais, moi j'adore ce mot bienveillance.
Ah non, mais moi je suis pour ça. Quand je vois des garçons que j'ai aidés, d'aucuns aujourd'hui ne s'en souviennent plus, mais quand d'autres s'en souviennent et disent. Un gars qui a écrit la comédie qui s'appelle Mon colocataire est une garce, chaque fois que je le vois, il dit aux gens, c'est le mec qui m'a fait entrer à la classe. Il dit, Patrick, c'était le premier à dire à Lorsque Barou, tu devrais le caster, parce que c'est vachement bien ce qu'il fait, il écrit vachement bien. Et il se rappelle toujours de ça. Donc je trouve ça vachement bien. Et j'ai beaucoup d'ennemis, parce qu'évidemment, je suis un persifleur et que j'ai dit des vacheries. Je n'ai pas pu m'empêcher. C'est un peu comme Ruquier. Je ne peux pas. ne peut pas t'empêcher de, comment ça s'appelle, pour un mot d'humour, tu tuerais père et mère, quoi. Mais c'est jamais que de l'humour. Mmh. Je le pense pas, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est tellement, tellement facile et tellement marrant, pour faire rigoler la galerie de balancer
des vacheries. C'est ça, un petit coup de sniper. Gratiner, c'est...
Mais, je trouve bien d'être bienveillant. Les gens le savent pas, ils pensent que je suis plus, persifleur. Mais, moi, j'ai beaucoup transmis et j'ai beaucoup passé le témoin. C'est plus ma raison de vivre que ça. D'autant plus que j'ai le temps, puisque je n'ai pas charge d'âme.
Ouais.
Je ne suis pas marié, je n'ai pas de compagnon. Enfin, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat. Enfin, donc je peux penser aux autres.
Penser aux autres, uniquement à ton cercle familial.
C'est malheureusement, je dirais, là où ça chope dans ma vie. Effectivement, on dit, mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à être quelqu'un? Mais c'est-à-dire que je suis tellement dans le collectif. Je suis tellement avec le groupe. J'ai un groupe d'amis.
Tu n'as pas envie de te focaliser sur une personne.
Bien sûr que si. J'aimerais bien. Mais ton esprit n'est pas préparé à ça. Serais aussi ouvert aux autres? Est-ce que je serais aussi disponible? Est-ce que je serais tout ça? La preuve, c'est que quand les choses ont pu un temps marcher, j'ai arrêté la machine et on me dit, mais c'est quand même bizarre.
C'est quand même paradoxal, franchement.
Vous êtes un type bien, vous êtes un bel homme, machin, etc. J'ai dit oui, mais elle me dit, comment ça se fait que ça marche pas? Ben, je dis, parce qu'il y a peut-être pas la disponibilité nécessaire pour...
Disponibilité intellectuelle,
parce que disponibilité physique, je l'ai, mais est-ce que je saurais donner autant...
Un seul être,
oui, c'est un peu compliqué, hein. C'est pas simple. Et puis en plus de ça, faut accepter quelqu'un qui est... Moi, je suis comme
farouchement indépendant,
farouchement oiseau. Hein. Oui, je suis indépendant. Et en même temps, il y a du monde sans arrêt à la maison.
Indépendant, tu ne dépends pas de quelqu'un, de l'amour de quelqu'un en tout cas. Tu le donnes à tout le monde. Donc dépendant de personne et indépendant en total.
Tout à fait. Et en même temps, je donne les clés. Au sens physique comme au sens
de l'appartement.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, les gens me disent oh, j'aimerais bien, mais je veux pas te gêner, etc. Je dis non, mais vous inquiétez pas. Je vais vous donner les clés et vous allez faire votre vie. La maison est grande en Ahmadiyya. Vous prenez les clés. Je dis moi, je suis pas là pour faire la nounou. En revanche, si vous avez besoin de nounou, je serai là. Mais si vous avez besoin de votre indépendance, vous l'aurez, puisque moi, je ne vais pas briser les règles.
D'accord.
Casser la
règle. Patrick, il nous reste 4 minutes. C'est passé trop, trop vite.
Eh oui, comme
toujours. Dans les prochains mois, où est-ce qu'on pourra te voir?
Alors, je ne sais pas.
On est dans l'inconnu encore. Alors, toi, c'est l'inconnu.
Moi, c'est complètement l'inconnu. Là, je sais que j'ai des galas à la rentrée.
Tu sais quoi, tu me fais peur?
Non.
Non?
Non, parce que j'ai toujours été...
J'aimerais avoir ce lâcher prise sur tout ça.
Ah ouais, mais je sais pas.
Cette confiance, cette force intérieure, tu sais quoi?
Ah ouais, franchement
c'est...
En septembre, pour l'instant, il y a des galas. Je fais des chambres d'hôtes à Madia dans ma maison cet été.
Un site internet où on peut aller
www.patrickadler.com. On contacte...
Pour les
locations, oui, bien sûr.
D'accord, okay. Super.
Et donc, je fais ça. Voilà encore une nouvelle expérience. Ça permettra de
voir des gens. Et de partage, par hasard.
Parce que un jour, on m'a dit, mais attends, t'as un grand truc. Et donc, du coup, pendant toute l'année, j'ai fait des allers-retours pour bien préparer tout ça. J'ai dit, cet été, je fais ça. Et
c'est cool,
peut-être qu'on confierait ça à quelqu'un. C'est au bord de la mer, à 100 mètres de la mer. Donc, c'est une belle maison traditionnelle. Avec un patio qui distribue 4 chambres, superbe, lié à baldaquin, des enluminures, des alcôves.
Enfin, près de quelle ville?
Madia, c'est près de Monastir.
D'accord.
Et donc je fais ça, donc c'est encore une nouvelle expérience. En septembre, je sais que j'ai des galas, après je sais pas. Après je cherche un
l'inconnu.
Producteur. Ah, c'est l'inconnu total.
Alors, on est dans l'inconnu complet. Là.
Mais non, c'est un truc qui m'a jamais fait peur, parce que ça se trouve, là on m'avait appelé pour un pilote d'émission. L'émission se fait pas pour l'instant, mais on doit refaire ce pilote, donc peut-être que ça va passer autre chose.
Sur une autre radio
et tout. Je ne suis pas... Quand on m'a dit, finalement, ils n'ont pas pris en septembre, ils me pensent plus à janvier, je dis, c'est que ça ne devait pas se faire.
La personne avec qui je vis me dit toujours ça, bon, parce que pareil, dans ces métiers, on se dit, tiens, mais dis, écoute, Yves, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire.
Tout à fait. Moi, je veux plus
mais d'un autre côté, Patrick, il y en a qui savent forcer les choses.
Ouais, moi je sais pas.
Et ça doit être vachement agréable. Moi non plus, mais ça doit être vachement agréable.
Il y a des gens,
Il y en a l'impression qui maîtrisent, qu'ils ont le manche à balai et qui maîtrisent, quoi.
Non, mais les gens, tu les fous dehors par la porte, ils rentrent par la fenêtre, mais c'est pas du tout mon truc. Je te dis, pas grave.
On se verra plus tard.
C'est tout. Voilà, c'est comme ça.
J'ai l'impression qu'avec toi, on n'a pas d'autre choix que, en tout cas, tu ne te donnes pas d'autre choix que l'amour. Mais l'amour.
Ah oui, bien sûr.
Global.
Ouais, bien sûr.
Pour le métier, pour la passion, pour les gens, pour tout ça. L'amour. On n'a pas d'autre choix que l'amour avec toi.
Il n'y a que ça de vrai.
Ouais, et la passion.
La passion, elle est destructrice. Moi, j'en ai connu et ça, ouais. ça. Là, j'ai un peu calmé le jeu.
On se protège.
On se protège, mais je me protège peut-être un peu beaucoup sous des dehors un petit peu hystéro-vaginoglinglin. Je pense que je suis beaucoup plus d'abord cérébral et rationnel qu'on ne le pense. Mm-hmm. Je dis toujours aux gens, quand les gens me disent c'est marrant quand ils voient par exemple comment les affaires sont rangées chez moi, comment j'ai un sens de l'ordre et tout.
C'est rangé chez toi
complètement.
Ah, j'aurais vu un gros
tout,
bordel.
Non, pas du tout. C'est tout sauf bordélique. N'oubliez jamais que j'ai été prof d'allemand. Donc j'ai une rigueur. Je suis à la limite de la manie écrite. Je vis avec ma meilleure amie pour l'instant là depuis un an et elle me dit je te savais maniaque mais à ce point-là et tout.
Ah,
mais
c'est drôle.
C'est comme ça.
Patrick Adler, mille fois merci.
Mille fois merci à toi.
C'est bien de se voir dans une émission comme ça, d'avoir le temps de parler. Hein tu vois le Patrick Adler, comme vous ne l'aviez jamais vu ou entendu. Ou connu dans peut-être. L'inconnu.
Dans l'inconnu.
Merci Patrick.
Merci.
Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h avec Yves Carrat.